Rouletabille chez les Bohémiens, chapitre 1, 5. Lou Cabanou. Jean regarda Rouletabille avec étonnement. « Pourrait-on savoir ce qui te retiendra ici quand nous n'y serons plus ? » demanda-t-il. Sans doute Rouletabille n'avait-il point hâte de répondre, car il interpella tout de suite le vieil Alari qui entrait. « Que se passe-t-il donc au Sainte-Marie ? » « Ah, mais si, Dieu seul le sait, mais ce n'est pas pour rien qu'on appelle leur messe la messe du diable. »« Sache, mon ami, que les bohémiens sont de bons catholiques. »« Hé, qu'est-ce n'empêche qu'ils disent la messe à rebours, dans la crypte. »« Comment cela ?»« Eh bien, leur vicaire leur fait face, au lieu de leur tourner le dos, et l'autel lui aussi est retourné. » « Mais cela n'est rien, je vous dis, c'est ce qui se passe après. Ah, il ne faudrait pas qu'un roumi leur passe par les mains à ce moment-là. »« Ils le mangeraient ?»« Non, mais il n'y a pas de bonne fête dans le fond de la crypte, s'il n'y a pas de sang. »«
Qu'est-ce qui t'a dit ça ?»«
Tout le monde sait ça en Camargue. » Jean haussa les épaules. « Eh, monsieur, reprit Alari. « J'ai abordé l'un de ces maudits, pas plus tard qu'hier, et je lui ai demandé « Un te vas, ton grand couteur ?»« Où vas-tu avec ton grand couteau ?» Il m'a répondu en me regardant de travers « Coupa di testo, sienne bourrère !»«
Couper des têtes, suis bourreau !»
Et en attendant, qu'est-ce qu'il coupait ?« Des osiers pour tresser ses corbeilles. »
« Tu vois, mon brave Alari, tu es un peu simple d'esprit, tu sais. »
Dans le même moment, on entendit des voix dans le vestibule, et Alari s'en fut voir ce qui se passait. Il revint, l'air tout ahuri, et tenant une gaze bleuâtre qu'il montra aux jeunes gens en disant « C'est le père Tavant qui a trouvé l'écharpe de mademoiselle dans le clos de Monsieur Hubert. » Jean devint affreusement pâle. Rouletabille bondit hors de la pièce. Dans le vestibule, il se heurta à Estève, la femme de chambre, une arlésienne qui n'était point depuis longtemps en service au Castounou, et lui demanda d'une voix sèche si mademoiselle Odette était dans sa chambre. « Eh, je crois bien qu'elle est dans sa chambre. Je descends lui chercher son petit déjeuner. » répliqua cette fille, un peu étourdie des façons du reporter. Celui-ci lui demanda encore « Mademoiselle Odette est allée hier chez Monsieur Hubert ?» Estève, qui paraissait de plus en plus offusquée par ce brutal interrogatoire, se prit à rougir et tout à coup éclata. « Est-ce que je sais, moi, si mademoiselle est allée chez Monsieur Hubert ? Est-ce terrible ? Est-ce que je suis là pour veiller sur mademoiselle ? Laissez-moi passer. Qu'est-ce ? » À ce moment, Jean parut dans le vestibule, suivi d'Alari, et dit à Estève « Tu porteras à ta maîtresse son écharpe que cet homme vient de trouver dans le jardin de Monsieur Hubert. »«
Dans son jardin ?» répéta la servante, visiblement troublée.
« Oui, dans son jardin, » redit le père Tavant, un journalier qui travaillait en supplément quelquefois chez les Lavardans, mais le plus souvent chez Hubert. « Et tu travaillais ce matin chez Monsieur Hubert ?» questionna Rouletabille. « Oui, j'arrivais pour le travail, » répondit l'autre. « J'ai vu l'écharpe par terre dans la petite allée. Je l'ai reconnue tout de suite. La demoiselle l'avait encore hier sur les épaules. Je suis allée frapper à la porte de Monsieur Hubert, mais personne ne m'a répondu. Alors j'ai rapporté Lou Fichu ici. »«
Eh, Tavant, » fit Alari.
« Où as-tu vu que mademoiselle avait hier Lou Fichu sur ses épaules ?»«
Pas chez Monsieur Hubert, apparemment. »«
Non, mais quand elle est passée sur la route avec Lou Padre et à la promenade de 5 heures. »«
Alors, » fit Rouletabille, « elle aura perdu cette écharpe pendant la promenade. Monsieur Hubert l'aura trouvée, ramassée, et il l'aura lui-même perdue en rentrant chez lui. »«
À moins, » fit Alari, « que Monsieur Hubert, rencontrant Monsieur et Mademoiselle à la promenade, ait dérobé Lou Fichu en manière de plaisanterie. »«
Drôle de plaisanterie, » ricana Jean. Mais monsieur Hubert nous renseignera là-dessus. Merci toujours, Tavan, et que Dieu te garde. Pendant ce temps, Rouletabille ne perdait pas une ligne du jeu des physionomies autour de lui. Estève s'était éclipsée, descendant aux cuisines. Tavan avait une de ces figures de vieux paysan roublard qui affectent de cacher une surastuce sous une niaiserie problématique. « Je m'en vais avec Tavan, » fit le reporter. « Il me montrera l'endroit où il a trouvé cette écharpe. » Alors Jean les suivit dans le plus fâcheux état d'esprit. Alary fermait la marche. Ils descendirent la route jusqu'à la porte de la petite propriété d'Hubert, une modeste bastide à côté au parc des Lavardans, et qu'Alary ne désignait jamais autrement que par ces mots méprisants « loup cabanou ». Bien qu'Hubert eût fait tous les frais nécessaires pour lui donner un aspect moderne et la meubler avec une certaine élégance. Quand ils eurent pénétré dans l'enclos, Tavan désigna l'endroit où il avait trouvé l'écharpe. Rouletabille était déjà à quatre pattes. Déjà, il avait quitté l'allée pour suivre une piste fraîchement empreinte dans la terre molle du jardin et qui le conduisait jusque sur les derrières du bastidon. Alary, qui regardait agir Rouletabille avec admiration, murmurait entre ses dents une vieille galéjade. « Un jour qui sera nuit, les hommes auront une queue qui portera un œil, qui pirouettera de mille façons, et qui, à 10 pas, verra les veines d'une puce. » Le mur qui bordait l'enclos de Hubert était assez bas à cet endroit. Soudain, en deux bonds, Rouletabille le franchit et retomba dans un chemin creux qui venait finir là en cul-de-sac. Les autres voulaient le suivre, mais il réapparut tout de suite, le front soucieux, un mot sur les lèvres. « Otto !»« Eh bien, lui demanda Jean, que se passe-t-il »« Éloignez-vous un peu, » commanda le reporter à Alary et à Tavan. « J'ai à parler à monsieur de Santierne. » Et quand les autres eurent fait quelques pas, « Eh bien, » répéta Jean, « Eh bien, Odette est venue ici. »
« Odette est venue chez Hubert ?»«
Oui. »«
Seule ?»«
Mon Dieu, oui, seule. Mais ce qui m'effraie, vois-tu, ce n'est pas qu'elle soit venue, c'est que je ne vois pas comment elle en est ressortie. »«
Tu rêves ? Où as-tu vu les pas d'Odette ? Montre-les-moi, je veux les voir. »
Rouletabille le conduisit à l'endroit que l'homme avait désigné comme étant celui où il avait trouvé l'écharpe. Là, en effet, il y avait l'empreinte légère d'un petit soulier pointu, empreinte qui disparaissait tout d'un coup. Cette empreinte se dirigeait vers la maison d'Hubert, et puis plus rien.
« Plus rien !»
répétait sourdement Rouletabille. « Cette empreinte s'en vient et ne s'en retourne pas. » Et elle est rencontrée là par des pas d'hommes. Des pas d'hommes qui conduisent au mur. Et tu ne sais pas ce qu'il y avait derrière le mur? Il y avait, dissimulé dans le chemin creux, une auto qui attendait. Ah, si à 7 heures, Odette n'était pas dans sa chambre, on pourrait supposer le pire.
Le pire que l'on puisse supposer, râlait Jean qui souffrait le martyr, c'est qu'Odette soit venue ici toute seule. Le reste n'existe pas. On ne l'a ni enlevée ni tenté de l'enlever. « Sans quoi, elle se serait plainte, n'est-ce pas? Enfin, tu la connais. »«
Oui, » fit Rouletabille d'une voix grave, « je la connais. »«
Et tu vois Odette, toi, venant la nuit chez Hubert? Mais tu as juré de me faire devenir fou. »«
Du calme, Jean, du calme. Odette est un ange, et tu es un poète. Laisse-moi faire mon métier. » qui est de regarder la trace que laissent en passant les gens et les choses sur la terre. 6. Un morceau d'étoffe couleur tango.
« Qu'est-ce que tout cela prouve ? »
gronda Jean, la tête basse, le front mauvais. « Pourquoi voudrais-tu qu'il n'y eût pas dans ce jardin des pas de femme ? Est-ce que nous savons qui est venu hier chez Hubert? Et pourquoi veux-tu que cette empreinte soit justement celle du soulier de dette?
Pour trois raisons, répliqua Rouletabille en s'essuyant le front.
D'abord, parce que je la trouve à côté de l'écharpe. Ensuite, parce qu'elle correspond à la pointure d'Odette. Enfin, parce qu'elle vient de là.
Et le reporter désignait du doigt une petite porte dans un mur assez bas qui séparait la propriété d'Hubert du vieux château.
Par la porte mitoyenne, ricana Jean. Je la croyais condamnée depuis longtemps, la porte mitoyenne.
Eh bien, vois, fit Rouletabille. Et il n'eut qu'à la pousser pour qu'elle s'ouvrit.
Oh ! Gémit Jean, j'étouffe.
Et se retournant, il fit quelques pas menaçants vers la maison d'Hubert. Mais Rouletabille l'arrêta. Il lui montra Tavant, qui, d'un œil sournois, observait à quelques pas de là tout ce qui se passait.
Je t'en supplie, contiens-toi.
C'est Hubert ! Grinça Jean, frémissant.
« Je le tuerai !»
Rouletabille haussa les épaules et d'un signe appela Alary près de lui. Il n'eut qu'à lui montrer la porte pour que le vieux domestique comprît.
« Je puis affirmer à monsieur qu'hier soir encore elle était fermée à clé et que les verrous en étaient poussés. Et ça n'est pas la rouille qui leur manque. On ne les a pas tirés depuis des années. » C'est bien simple, depuis la mort du père de monsieur Hubert.
Et la clé de cette porte, où était-elle?
Ah, ça, monsieur, je ne sais pas. Il faudrait le demander à monsieur ou à mademoiselle.
C'est bien, Alary, tu vas rentrer au château, et je te connais assez pour être sûr que tu ne diras pas un mot de tout ceci.
Certes, monsieur, mais c'est Loupert avant.
Loupert avant, j'en fais mon affaire. Il poussa le vieil Alary dans le parc et y passa lui-même, suivi de Jean. De ce côté, il trouva la clé sur la serrure. Il constatait en même temps qu'il avait fallu se livrer à de gros efforts pour faire jouer les verrous. Jean, anéanti par cette idée qu'Odette était venue la nuit précédente, de son plein gré, chez Hubert, le regardait faire, d'un air stupide, hébété. Soudain, des cris sinistres retentirent parmi lesquels on reconnaissait la voix d'Alary. Rouletabille et Jean se précipitèrent en tournant le coin d'une épaisse futaie, découvrirent tout un groupe autour d'Alary que l'on apercevait à genoux. Ces gens qui apportaient leur fourniture quotidienne au vieil Castounou faisaient entendre des lamentations, des « bon Dieu » et des « pécheurs » qui annonçaient un gros malheur. De fait, les jeunes gens, ayant écarté cette petite troupe affolée, se trouvèrent devant un cadavre, à la figure couverte de sang. Jean poussa un grand cri.
« Monsieur de Lavardan assassiné !»
Alary pleurait. Le père Tavant, qui était accouru, lui aussi, déclarait que « le pauvre était déjà froid. » Rouletabille l'écarta en défendant de toucher au corps. Lui seul en avait le droit. Il constatait rapidement une horrible blessure à la tempe qui semblait avoir été faite avec un instrument tranchant. En même temps, il relevait sur la victime des traces d'une lutte qui avait dû être acharnée. Les vêtements étaient en désordre, le col de la chemise était arraché, et dans sa main crispée, monsieur de Lavardan tenait un morceau d'étoffe couleur tango. Aussitôt qu'il eut aperçu ce morceau d'étoffe, Alary s'écria
« Mais c'est la cravate de monsieur Hubert !»
Et d'autres autour de lui répétèrent
« mais oui, c'est la cravate de monsieur Hubert !»«
Vous en êtes sûr ?» questionna Jean d'une voix rauque.
« Ah, si j'en suis sûr !»
répéta Alary en se relevant. « Et le père Tavant lui aussi en est sûr. Pourquoi ne dis-tu rien, Tavant ?»«
Parce que ça commence à être des choses qui ne me regardent pas. »«
Qu'est-ce donc qui te regarde ?» lui demanda brusquement Rouletabille.
« Mon jardin, » répliqua l'autre. « Sûrement ce matin j'aurais mieux fait de rester dans mon jardin. »
« Ça n'aurait pas empêché ton maître d'être un assassin !» s'écria Jean. Tout le monde se ruait déjà derrière Jean dans la propriété d'Hubert. On entendait par-dessus tous le vieil Alari qui répétait
« Je l'avais bien dit ! Je l'avais bien dit ! Tôt qu'un brigand dans la fouresse !»
Quant à Rouletabille, il n'avait point suivi cette troupe. Bien au contraire. Après avoir examiné rapidement toute chose autour du cadavre, il se prit à courir du côté opposé, c'est-à-dire du côté de Castounou. Dans le vestibule, il retrouvait Estève, la femme de chambre, qui montait des cuisines, portant le déjeuner de sa maîtresse sur un plateau. Car tout ce que nous venons de raconter n'avait pas duré un quart d'heure. Estève, en revoyant le reporter, ne put dissimuler un mouvement d'inquiétude.
« Quoi de nouveau encore, monsieur, que vous voilà le visage tout à l'envers ?»«
Monte, je te suis. » Elle haussa les épaules, agacée, et gravit l'escalier. « Tu vas dire à ta maîtresse qu'il faut que je lui parle, tout de suite. » Elle voulut répondre quelque chose, mais Rouletabille la regarda d'un air qui lui ferma la bouche. Alors elle frappa à la porte de la chambre et entra. Elle en ressortit presque aussitôt, toute pâle, mais essayant de dominer une émotion trop visible et faisant des efforts pour affermir sa voix.
« Mademoiselle vous verra bientôt. Mademoiselle ne peut pas vous recevoir tout de suite. »
Rouletabille la bousculait, ouvrait la porte d'autorité et se trouvait dans la chambre d'Odette. La chambre était vide. Le lit n'avait pas été défait. Le reporter se retourna d'un bond vers Estève, qui voulut fuir, mais il l'avait saisi au poignet, et refermant la porte, il lui dit
« Un ou deux maintenant. »
7. Estève.
« Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» s'écria l'Arlésienne au comble de l'épouvante.
« Je te jure que tu vas me le dire !» lui jeta Rouletabille dans la figure.
« D'abord, tu savais que ta maîtresse n'était pas dans sa chambre. Ne mens pas, tu nous as trompés. »«
Je te jure, mon Dieu, que je croyais mademoiselle dans sa chambre.
Oh, Seigneur, baillasse mais la pas.
Oh, Seigneur, donnez-moi la paix.
Je jure, mon Dieu, je jure, mon Dieu. »
Elle levait vers lui de grands yeux qui l'imploraient. Rouletabille y plongea les siens, puis la lâcha, apparemment radouci. Il essayait de se calmer lui-même, et pour la calmer, elle, il lui parla le langage de son terroir.
Tout à l'ouro. De qui que t'aviez troubalablo?
Qu'est-ce qui t'avait troublé tout à l'heure?
Le sais-je, fit-elle. Vos yeux me faisaient peur.
Tu mens, Estève. Tu sais quelque chose que tu ne veux pas me dire. Mais apprends que l'on a enlevé ta maîtresse cette nuit, que l'on est allé chercher le juge et que tu vas être arrêtée comme complice.
Enlevée ? Enlevée ?
S'écria la pauvre fille, et elle s'écroula avec des larmes au pied du lit de mademoiselle de Lavardan.
Ah ! Soupira-t-elle. Père que des siès en vous la dos.
Pourquoi t'es-tu envolée ?
Estève, je te crois une honnête fille, reprit Rouletabille, mais tu peux avoir commis quelque imprudence qui te sera pardonnée si tu parles avec sincérité.
N'es-tu pas entrée hier en conversation avec des personnes qu'on n'a point l'habitude de voir au vieil Castounou ou dans les environs ?
Non, monsieur. Non, monsieur, avec personne.
Ah, attendez, attendez. Hier matin, la grille était ouverte. Je faisais la chambre de mademoiselle, et j'ai aperçu devant la grille un homme de mauvaise mine. Justement, mademoiselle passait, et j'ai vu que ce vaurien était assez osé pour appeler mademoiselle.
Et mademoiselle, qu'est-ce qu'elle a fait ?
Elle est allée à lui et lui a parlé pendant quelque temps. « Bien gentiment, ma foi. Mademoiselle est trop bonne avec les gens de la route. Surtout quand ils sont faits comme celui-là, qui avait l'air d'un vrai brigand,
et qui regardait mademoiselle avec ses yeux du diable. Et quand mademoiselle est rentrée, elle ne t'a rien dit ?
Non, mais moi je l'ai questionnée. J'étais curieuse de savoir ce que voulait cet homme. Elle m'a répondu « C'est un tondeur de chien. Il m'a demandé si je n'avais pas un chien à tondre. »
C'est tout ce que mademoiselle m'a dit. Alors moi, je suis retournée à la fenêtre, mais l'homme était parti.
N'importe, sa figure ne me revenait pas. C'est sûrement lui qui a fait le coup.
Ah, pauvre mademoiselle !
Se reprit à gémir Estève.
Elle, si confiante, si bonne avec tout le monde.
À ce moment, Jean arrivait en trombe. On l'entendait bondir dans l'escalier et crier
« Odette ! Odette !»
Rouletabille enferma d'un tour de clé Estève dans un petit cabinet voisin en lui jetant « Tu es ma prisonnière. Nous sommes loin d'en avoir fini tous les deux. » Puis il ouvrit la porte de la chambre à son ami, à qui il n'eut qu'à montrer le lit non défait pour lui apprendre le nouveau malheur qui le frappait et qu'il redoutait par-dessus tout. Jean poussa un rugissement.
« Ah, le misérable !»«
De qui parles-tu ? » lui demanda froidement Rouletabille.
« Tu me demandes de qui je parle ? » s'écria Jean. « Mais de l'assassin de M. Lavardant et du ravisseur d'Odette. »
« Ah, Rouletabille, Rouletabille, tu sais qu'on a enlevé Odette, et tu n'es pas déjà sur ses traces. »
« Qui te dit que je ne suis pas sur ses traces ?»
releva le reporter avec impatience.
« Qui te dit que je ne cours pas après elle plus vite dans cette chambre que dans une auto qui brûlerait la route ?»«
Malheureux !»
ajouta-t-il en se rapprochant de lui.
« Tu cours après Hubert. Autant de pas qui t'éloignent d'Odette. »
« Tu défends Hubert ? »
râla Jean.
« Eh bien, tiens, lis. Voilà ce que j'ai trouvé chez Hubert, dans une pièce ravagée par le drame qui s'est déroulé cette nuit.
Lis, mais lis donc !»
Rouletabille lisait une lettre brutalement froissée. « Mademoiselle, l'accueil que j'ai reçu chez vous, au mépris de la parole donnée, l'attitude de votre père et la vôtre, hélas, à mon égard, tout cela m'indigne. Il faut que je vous voie. Je vous attendrai ce soir même à 10 heures dans le jardin, près de la porte mitoyenne. Si vous ne venez pas, je ne réponds plus de moi-même. Votre désespéré Hubert de Lauriac.
Comprends-tu maintenant ?
Haletait Jean.
Je te jure qu'il n'y a pas besoin de se mettre à quatre pattes pour comprendre.
Odette reçoit une lettre, elle veut éviter un malheur, elle se rend dans le jardin. Le misérable l'entraîne chez lui. La pauvre petite crie, son père l'entend, décroche un fouet à chien, que voici. »
Et Jean mettait sous le nez du reporter le fouet à chien de M. de Lavardant, qu'il venait également de ramasser chez Hubert. Et il se précipite chez ce misérable. Scène terrible. Il veut ramener sa fille. La scène se poursuit jusque dans le jardin, jusque dans le parc, et il ne recule pas devant le crime pour pouvoir emporter Odette. Et maintenant, où est-elle, mon Dieu ? Où courir pour la sauver ?
Rouletabille s'était mordu les lèvres jusqu'au sang pour ne point interrompre Jean. Il savait que son ami, doux à l'ordinaire comme une petite fille, mais impulsif comme un artiste, et entêté comme un poète, n'écoutait dans le premier moment de ses emballements que le mouvement de son cœur. Il fallait qu'il eût jeté son premier feu pour que le froid langage de la raison pût ensuite faire quelque impression sur lui. Rouletabille lui prit amicalement ses deux mains qui brûlaient et lui dit « Mon cher Jean, je t'en supplie, ne perdons pas notre temps avec des divagations de ce genre. » « Comprends que ce n'est pas Odette qui est allée la première chez Hubert, c'est M. de Lavardant, et la lettre que je viens de lire me le prouve et vient corroborer tout ce que, dès maintenant, je puis imaginer du drame. »«
Mais tu oublies que ce n'est pas à M. de Lavardant qui est adressée cette lettre, mais à Odette. »«
Tu vas me forcer à te dire que je connais Odette mieux que toi. » répliqua Rouletabille avec un triste sourire.
Je suis sûre, tu entends? Je suis sûre qu'aussitôt qu'elle a reçu cette lettre, Odette est allée la porter à son père. Comprends-tu maintenant pourquoi M. de Lavardan est allé le premier chez Hubert? Et pourquoi Odette, effrayée de ne pas le voir revenir, est allée le rejoindre?
Qu'est-ce que tu veux que tout cela me fasse?
Reprit Jean égaré. Il n'en reste pas moins que c'est Hubert qui a fait le coup.
Ah, je le rejoindrai et je lui crèverai la peau, je te le jure.
Rouletabille voulut le retenir.
Jean, ce n'est pas Hubert qui a fait le coup.
Rouletabille, tu n'es plus mon ami. Et il s'arracha des mains du reporter pour courir comme un insensé au-devant des magistrats qui arrivaient. 8. Où l'on voit réapparaître le signe fatal. Alors le reporter alla retrouver Estève, la ramena dans la chambre d'Odette et lui dit « Mademoiselle de Lavardan a reçu hier une lettre de Monsieur Hubert. C'est toi qui la lui as apportée. »
« Je jure que je n'ai pas donné de lettre à Mademoiselle Odette. »
« Je ne te dis point que tu lui aies donné la lettre. Je dis que c'est toi qui l'as apportée. »
« Je n'ai rien apporté du tout. Je n'ai rien apporté du tout. »
Et elle se tordait les mains dans un désespoir non simulé, mais qui lui venait peut-être du remords de son mensonge. Rouletabille ne s'y trompa point. Il résolut de frapper un grand coup. Il lui montra par la fenêtre les magistrats qui commençaient leur enquête.
« Vois, lui dit-il, voici les juges qui viennent pour arrêter Monsieur Hubert, car c'est lui qui est accusé d'avoir enlevé Mademoiselle Odette et d'avoir assassiné Monsieur de Lavardan. »
Estève se dressa, galvanisée.
« Monsieur de Lavardan assassiné ?»
Et elle chancela. Rouletabille la retint, car elle serait tombée.
« Oui, assassiné. Et malheur à ceux ou à celles qui ne disent pas toute la vérité. » « Eh bien, je vais vous la dire, je vais vous la dire, »
râla la malheureuse. « J'ai eu tort de recevoir de l'argent de Monsieur Hubert. Si j'avais su...
Ah, mon Dieu, si j'avais su... »
« Pourquoi te donnait-il de l'argent ?»«
Pour lui dire ce que faisait Mademoiselle Odette, si elle recevait des lettres de Monsieur Jean, et même de vous, Monsieur Rouletabille. Enfin, tout. » « J'ai eu tort, mon Dieu, si j'avais su. À la fin, il a bien fallu que je lui obéisse. Hier, je passais dans le sentier quand il a sauté de son mur et qu'il m'a remis une lettre pour Mademoiselle Odette. Moi, je ne voulais pas, mais il a dit « Tu n'as qu'à déposer cette lettre dans sa chambre. Elle ne pourra pas savoir qui l'a apportée là. » Et il m'a donné encore de l'argent. Enfin, j'ai fait ce qu'il a voulu. » Et j'ai mis la lettre là, sur ce chiffonnier. »
La malheureuse s'arrêta un instant, étouffée par les sanglots.
« Allons, allons, » pressa Rouletabille. « Que s'est-il passé après ?»«
Après, je me demandais ce qui allait arriver quand mademoiselle aurait vu cette lettre. Mon Dieu, elle l'a vue le soir en rentrant dans sa chambrette. Moi, je la guettais en haut de l'escalier. » Elle est allée trouver tout de suite monsieur dans sa chambre.
Parbleu, grommela Rouletabille. Et moi, je m'attendais à être appelée. J'étais morte de peur. Mais mademoiselle est rentrée quelques instants plus tard dans sa chambre, et je n'ai plus rien entendu. Alors je suis montée me coucher, mais je n'ai pas dormi de la nuit.
Quelle heure était-il?
Il pouvait être 9h30.
Puisque tu ne dormais pas. « N'as-tu rien entendu cette nuit ?»«
Si, » avoua Estève en frissonnant. « J'ai entendu un cri, et j'ai cru reconnaître la voix de mademoiselle. »«
Et alors ?»«
Et alors, j'ai enfoncé ma tête dans mon oreiller. »« Plus tard, je me suis dit que j'avais rêvé. »« Je ne pouvais pas penser que mademoiselle quitterait sa chambre, bien sûr. »« tout de même, si j'étais si troublée ce matin... » C'est qu'il se faisait tard et que mademoiselle ne me sonnait pas pour son déjeuner. Alors je suis descendue la chercher, car j'étais au fond pleine de crainte, à cause du cri de la nuit. Oh, quand j'ai vu l'écharpe, mon sang s'est glacé dans mes veines et je suis descendue aux cuisines.
mais j'avais les jambes cassées. Je n'avais plus de force pour remonter. Enfin, je me suis raisonnée et je vous ai revue. Et je me suis dit qu'on allait tout savoir. Ah, quand j'ai vu la chambre vide, comment ai-je eu le courage de ressortir et de vous mentir? Mais il le fallait bien, n'est-ce pas? Je voulais avertir en secret monsieur de Lavardan.
Monsieur de Lavardan est mort assassiné à cause de cette lettre, prononça Rouletabille de sa voix la plus lugubre.
Sans compter qu'à cette heure, mademoiselle Odette est peut-être morte, elle aussi.
Mon Dieu, tu me failles mourir.
La plus grande coupable de ces deux crimes, c'est toi. Souviens-toi, Estève, que dit grand crime, l'eau sans s'écopa. Des grands crimes, le sang ne sèche pas. Estève le considéra avec des yeux hagards et lui demanda dans un souffle
« On va me mettre en prison ?»«
Non, » fit Rouletabille, « si tu continues à me dire toujours la vérité quand je t'interrogerai, car tu n'as pas fini de dire la vérité. »«
Mais à mes yeux les juges, » hoqueta la malheureuse, « à mes yeux les juges, qu'est-ce que je dirais ?»«
Ah, à mes yeux les juges, tu ne leur diras rien du tout. » Car tu penses bien qu'il te mettrait tout de suite en prison, tu peux en être sûr. Mais à moi, Estève, à moi qui ne te ferai pas mettre en prison, si tu me dis la vérité, tu vas me dire. Et il s'était penché sur elle, la brûlant de son regard. Tu vas me dire d'où vient ce bijou-là? En même temps, il lui faisait danser devant les yeux un singulier joyau que sa main était allée chercher dans le tiroir entrouvert d'un chiffonnier où on l'avait jeté là, parmi les rubans et les sachets. Son attention toujours en éveil, même quand il paraissait entièrement pris par un interrogatoire aussi serré que celui qu'il faisait subir à cette femme de chambre, avait été attiré par le romantisme bizarre d'une ferronnière orientale qui représentait le signal fatal des Romanés, le croissant et la croix en forme de poignard qu'il avait vu un certain soir à certains anneaux d'esclavage.
« Oui, d'où vient-il »
répéta-t-il en agitant le collier, qui, trouvé dans la chambre d'Odette, venait corroborer tous ses soupçons, et confirmait si bien son enquête qu'il pouvait maintenant sûrement se dire « Callista a passé par là. »
« C'est un cadeau que l'on a fait à mademoiselle Odette, » répondit Estève.
« Et qui a fait ce cadeau à mademoiselle Odette ?»«
Monsieur Hubert. »
Rouletabille sursauta.
Il n'avait pu cacher l'effarement où le jetait cette réponse. À cette même date, nous trouvons les lignes suivantes sur son carnet. Estève ne m'a pas menti. Elle ne peut plus me mentir. Mais sa réponse touchant Hubert jette tout mon échafaudage par terre. Je n'y comprends plus rien. À moins que... Mais alors, où allons-nous? Attention à la pieuvre.
9. Hubert de Lauriac. Un heureux hasard avait voulu que les magistrats qui se rendaient pour une enquête au Sainte-Marie passassent à proximité du vieil Castounou, dans le moment que le crime venait d'être découvert. Ils en furent les premiers instruits et rebroussèrent immédiatement chemin. Quand Rouletabille redescendit dans le parc, il se trouva en face de Jean dont la religion était déjà faite. Comme on dit dans le pays, les vêpres étaient chantées. Le jeune Santierne avait renforcé la conviction de chacun en annonçant le rapt d'Odette. Le juge qui avait dirigé la rapide enquête et fait les premières constatations avait en main l'écharpe de mademoiselle de Lavardan. « Ainsi donc, disait-il, ni monsieur de Lauriac, Hubert, ni mademoiselle Odette n'ont couché cette nuit dans leur chambre. Cette écharpe dans le jardin même de monsieur de Lauriac atteste que mademoiselle Odette et lui se sont rencontrés. Tout prouve que monsieur de Lauriac s'est rendu coupable du rapt de mademoiselle Odette,
comme tout prouve qu'il est l'assassin de Monsieur de Lavardan. Nous n'avons plus qu'à nous mettre en mesure d'arrêter Monsieur de Lauriac. Qu'en pensez-vous, Monsieur Rouletabille ?
Termina le juge, heureux d'émettre une conclusion aussi claire, basée sur des arguments aussi solides, devant le célèbre reporter que tout le monde connaissait à Arles et au Sainte-Marie.
« Monsieur Rouletabille pense, répliqua le reporter, que vous arrêterez peut-être Monsieur Hubert de Lauriac, mais que vous n'arrêterez jamais l'assassin. »«
Comment ? Nous n'arrêterons jamais l'assassin ?»«
Non, vous ne l'arrêterez point, parce que vous ne le découvrirez point. »
D'après vous, ce n'est donc pas Monsieur Hubert.
Vous dites que tout le prouve.
Moi, je dis que rien ne le prouve.
Le morceau de cravate dans les mains crispées de la victime ne prouve pas plus que Monsieur de Lauriac soit l'assassin, que cette écharpe trouvée dans son jardin ne prouve qu'il a enlevé Mademoiselle de Lavardan.
Rouletabille est fou, s'écria Jean.
Mais enfin, qu'as-tu à défendre ce misérable que tout le monde accuse ?
C'est justement parce que tous semblent l'accuser.
Mais Jean exaspéré. Tu ne veux jamais être de l'avis de personne. Cela t'a réussi quelquefois. Mais aujourd'hui, l'orgueil te perd, et tu te fais le défenseur d'un assassin.
Et toi, Jean, l'amour et la jalousie t'aveuglent.
Mais enfin, expliquez-vous, éclata le juge.
Monsieur de Santerre n'a raison. Expliquez-vous, expliquez-vous.
Des explications, répondit le reporter. Il faut en demander à l'homme que voilà.
À moi, mes amis, à moi.
Et il se mit à bondir du côté de la porte mitoyenne. Derrière lui, tous coururent et pénétrèrent dans le jardin d'Hubert. Ils arrivèrent pour voir Rouletabille rejoindre brutalement Lauriac, dans le moment que celui-ci, fait comme un voleur, les vêtements en désordre, sans col et sans cravate, pénétrait subrepticement chez lui en sautant le mur à cet endroit que Rouletabille, quelques instants auparavant, avait sauté lui-même pour suivre la piste qui aboutissait au petit chemin creux derrière le bastidon. Jean, qui arrivait le premier derrière Rouletabille, put entendre celui-ci dire d'une voix sourde à Hubert «
On vient d'assassiner Monsieur de Lavardan. Vous n'avez qu'une façon de vous sauver de là, c'est de dire toute la vérité. »
En même temps, le reporter fut le premier à lui mettre la main au collet. Jean se précipita ensuite et, malgré Rouletabille, prenait Hubert à la gorge. Les gendarmes accourus eurent peine à le séparer de sa proie. Il lui crachait dans la figure.
« Misérable ! Où est Odette ? Qu'as-tu fait d'Odette ? Où l'as-tu cachée ?»
Mais les magistrats faisaient écarter tout le monde et se disposaient à procéder à un premier interrogatoire. Rouletabille essayait encore de calmer Jean, qui, après ce premier contact avec son ennemi, pleurait amèrement dans une détente passagère.
« Pourquoi ? Disait-il au reporter. « Le fais-tu arrêter ? Pourquoi l'arrêtes-tu toi-même si tu le crois innocent ?»«
Pour qu'il se justifie, » répondit Rouletabille.
Le juge était déjà aux prises avec Hubert.
« Pour que vous soyez revenu ici, monsieur, dans cet état, alors que vous étiez en droit de redouter que le cadavre de Monsieur de Lavardan ne fût déjà découvert, il faut que vous ayez été poussé par de bien puissantes raisons. »
« Je ne vous les demande pas. Nous les connaissons déjà. Ce sont les preuves de votre crime, que dans un premier égarement vous aviez laissé derrière vous et que vous reveniez chercher. Ce fouet qui appartient à Monsieur de Lavardan et cette lettre adressée à Mademoiselle Odette. Nous avons aussi l'écharpe de Mademoiselle Odette. Tout cela a été trouvé chez vous, monsieur, avec d'autres preuves de votre crime.
Avouez. La passion vous avait rendu fou, n'est-ce pas ?
Le prisonnier, qui montrait alors une tête effrayante de bête réduite aux abois, balbutia ces quelques mots.
« On a enlevé Odette ?
Vous n'en savez rien ? releva le juge en haussant les épaules. « Vous ne saviez peut-être pas non plus que M. de Lavardin avait été assassiné ?»«
C'est monsieur qui me l'a appris !»
râla Hubert en désignant d'un mouvement de tête Rouletabille qui le dévorait du regard.
« Enfin, vous niez tout !»«
Ah oui, alors, je nie tout !» s'écria-t-il, littéralement écumant.
« Qu'on le confronte avec le cadavre de sa victime !» commanda le juge.
« Monsieur le juge ! Monsieur le juge ! » s'écria Jean. « Je vous en supplie, occupez-vous d'abord d'Odette ! Où le misérable a-t-il conduite ? Voilà ce qui presse !»
L'homme tourna vers Jean un regard fulgurant de haine.
« Je ne sais pas où elle est, » déclara-t-il d'une voix rauque. « Mais où qu'elle soit, je suis heureux qu'elle ne soit pas près de toi. Et si je dois être condamné pour un crime que je n'ai pas commis, puisse-t-on ne la retrouver jamais ?»
Une telle invective était bien dans le caractère d'Hubert, tel que Jean l'avait défini dans toute sa rudesse sauvage en deux phrases, qui en faisait moralement et physiquement le type même du gardien, ne prenant plaisir qu'à son cheval, armé de son trident, galopant derrière les troupeaux, ou, quand venaient les jours de fête, héros de la ferrade. Les Lauriac, gentilshommes ruinés, étaient venus se réfugier depuis longtemps en Camargue, où ils avaient vécu de l'élevage des chevaux et des taureaux, qui fournissaient chaque dimanche, jusqu'aux confins du Languedoc, les courses provençales. Le père d'Hubert avait fini par amasser un petit bien et s'était retiré non loin d'Arles, à Lavardan, dans Loucabanou, comme disait le vieil Alary, laissant à son fils la direction du mât, qui dressait tout là-bas, à l'extrémité des terres et des marécages, ces murs blancs que l'on apercevait de très loin comme une image irréelle, comme un trompeur mirage dans la transparence de l'air et des eaux. Les Lauriac et les Lavardan avaient alors voisiné. Le châtelain était grand chasseur et grand pêcheur, et il avait pris tout de suite en amitié le jeune Hubert, qui venait toujours le chercher quand se présentait une bonne occasion. La petite Odette, élevée assez librement, Madame de Lavardan étant morte quand son enfant était encore en bas âge, avait, elle aussi, subi l'influence rustique de ce grand garçon qui lui avait donné ses premières leçons de cheval. Le dimanche, dans la saison des courses, elle applaudissait avec frénésie quand Hubert, ses poings terribles aux cornes du taureau, retournait la bête et d'un effort surhumain lui faisait mordre la poussière. Or, Hubert s'était mis tout de suite à adorer cette petite. Il n'y avait rien de semblable à Odette en Camargue. « Oh, Nero cuno enfant et Nero che mai bello !» Ce n'était qu'une enfant, mais elle n'en était que plus belle. Elle paraissait d'une fragilité extrême, et il n'y en avait pas de plus intrépide. Cette contradiction se répétait partout chez elle et dans ses façons d'être. Tantôt elle avait la hauteur et la fierté d'une petite reine, tantôt elle était familière et ne semblait se plaire qu'avec les petites paysannes dont elle dirigeait les jeux. Elle était blonde comme le froment, avec des yeux couleur de mer, que l'on ne connaissait qu'à elle dans le pays, sans compter que ses paupières, quand elle souriait ou clignait, s'étiraient singulièrement et lui donnaient tout à coup un air de poupée d'Orient. « Mais l'enfant veignait fio !» Et chaque an, chaque jour, la faisait plus grande et plus jeune. Mais l'enfant devenait jeune fille, et chaque an, chaque journée, la faisait plus grande et plus gentille. Hubert n'y tint plus, et comme son père venait de mourir, il demanda carrément à M. de Lavardan la main de sa fille. M. de Lavardan était si loin de s'attendre à une pareille proposition qu'il ne sut d'abord que répondre. Il se prit à rire en parlant du jeune âge d'Odette. Elle venait d'avoir 14 ans. « Oh !» fit l'autre, « vous me diriez de l'attendre 10 ans que je l'attendrai 10 ans, et même davantage. Le tout est que je sache qu'elle est à moi. »
Voilà qui est brutal, mon garçon. Mais je serai aussi brutal que toi. Je ne pense pas que tu conviennes à Odette, et je ne crois pas qu'Odette pense jamais à toi.
Consultez-la, répliqua Hubert.
Monsieur de Labardan le quitta en haussant les épaules et en grommelant. Il serait tout au plus bon pour être son domestique. Mais il déchanta quand il eut parlé de cette étrange histoire à Odette. Celle-ci lui répondit sans s'émouvoir. « Il faut bien se marier un jour, et Hubert est le plus brave de la Camargue, et il n'y a pas un gardien pour lui tenir tête dans les ferrades, ni un taureau pour lui résister. » Quand il revit Hubert, M. de Labardan lui dit « Tu n'as rien fait pour mériter Odette, et tu es pauvre. »
« Faut-il devenir riche ?» répliqua Hubert.
« Tu ne feras point fortune en Camargue, » dit M. de Labardan. « Après ce qui vient d'être dit entre nous, il vaudrait mieux que tu ailles la tenter ailleurs. »
« Et si je reviens riche, vous me donnerez Odette ?»«
Si tu reviens riche et qu'Odette y consente, tu seras le mari d'Odette. »
« C'est bon, je n'en demande pas davantage. Vous me permettez de dire adieu à Odette ?»
« Oui, mon garçon. » Le jour de son départ, il les laissa même seuls un instant. Odette pleurait, l'autre lui demanda sa parole.
« Papa m'a fait jurer sur les saintes de ne pas vous la donner, Hubert. Mais voyez mes larmes, il faut attendre le retour. »
Hubert partit le cœur en liesse, décidé à faire fortune le plus rapidement possible et par tous les moyens. Or, Odette n'aimait pas, ne pouvait pas aimer Hubert. Tout le côté délicat qui était en elle, son étrange petite âme, qu'Hubert n'avait même pas soupçonnée, commencèrent d'apparaître avec la jeune fille, c'est-à-dire après le départ d'Hubert. Et ce fut dans ce moment-là que Jean de Santierne parut dans les Camargues. Appartenant à une vieille famille provençale, il venait d'hériter de vastes espaces sur les bords du Petit Rhône et aux environs des Sainte-Marie, où dès lors il revint souvent, attiré par le charme d'Odette. Rouletabille était dans sa confidence et lui aussi devint, assez souvent, le commensal de M. de Labardan. Celui-ci voyait avec plaisir le tendre sentiment qui commençait à naître entre Jean et sa fille. Artiste et poète, Jean eut au fait de révéler Odette à elle-même. Celle-ci en fut transportée. Hubert ne lui avait fait connaître que des gestes. Jean lui apporta le souffle qui transforme un être et lui fait découvrir un monde par-delà les choses visibles. Et puis, il lui parlait comme à une nouvelle Mireille en la regardant si tendrement. Le gai soleil l'avait éclose, son visage à fleurs de joue avait deux fossettes, et son regard était une rosée qui dissipait toute douleur. Et folâtre et sémillante, et sauvage quelque peu, ah, dans un verre d'eau, en voyant cette grâce, tout à la fois vous l'eussiez bu. Toute la douleur fut pour Hubert quand il revint riche. Ce fut un coup de foudre pour le père de Labardan, qui, connaissant le caractère du garçon, pouvait s'attendre au pire. Quant à Odette, elle n'en fut nullement émue. Elle l'avait à peu près oublié depuis 4 ans. Et puis elle adorait Jean, à qui elle venait d'être fiancée. Monsieur de Labardan supplia les jeunes gens de garder momentanément le secret sur ses fiançailles. Mais tout le pays déjà avait renseigné Hubert. Lui aussi eut recours à la dissimulation. Il fit des visites correctes, reprit sans arrière-pensée apparente la vie d'autrefois, invita même à son mât les jeunes gens et Rouletabille. Ce ne fut que lorsque Santierne et le reporter furent retournés à Paris qu'il commença son attaque. Elle fut brutale comme toujours. La fortune ne semblait pas l'avoir changée. Autant il s'était montré sournois pendant le séjour de Jean, autant il se découvrit après son départ.
Hubert s'était renseigné sur Jean. Il en parla à Odette avec mépris, comme d'un garçon de mœurs facile qui vivait à Paris avec une danseuse nommée Calista. Odette le quitta, affolée. Elle dit à son père que la vue d'Hubert lui était devenue insupportable, et elle le supplia de la laisser partir avec sa vieille servante chez une de ses tantes dans l'Aveyron. Monsieur de Lavardan accueillit avec joie cette proposition, et Odette prenait le train le soir même. Elle revenait le surlendemain, au grand étonnement de son père, s'accusant d'avoir agi comme une sotte. Elle avait réfléchi, expliquait-elle. Elle ne voulait pas qu'Hubert pût croire qu'elle avait peur de lui. Le soir même, après une conversation que monsieur de Lavardan eut avec la vieille servante qui avait accompagné Odette, la domestique était congédiée et retournait au beau, dans son pays. C'était si inattendu que personne au vieil Castounou ne s'expliqua ce départ et qu'un troublant mystère commença de planer sur ce singulier voyage. Quelques jours plus tard, Hubert se livrait à des extravagances. Il s'était mis à boire, et au milieu d'une troupe de gardiens qu'il régalait à l'auberge des Saintes. Il avait déclaré qu'Odette de Lavardan serait sa femme, ou qu'avant peu, on verrait du nouveau en Camargue. Ces propos étaient venus à l'oreille d'Odette, d'où ses lettres, ses dépêches affolées à Jean. Décidé à tout brusquer, l'avant-veille du crime, Hubert se rendait chez monsieur de Lavardan. Mais ici, nous rentrons en plein dans le drame, et nous laisserons la parole à l'inculpé. Disons tout de suite que la confrontation d'Hubert avec le cadavre de monsieur de Lavardan n'avait en aucune façon modifié la façon d'être du jeune homme. Il avait regardé d'un œil sec et même hostile ce corps ensanglanté, avait reconnu sans difficulté sa cravate dans le morceau d'étoffe tango, mais avait déclaré qu'il était innocent. « Je vais vous dire, fit-il, ce qui s'est passé à ma connaissance. Quand j'aurai fini, vous en saurez aussi long que moi, mais pas ici. Je pourrais rester 1000 ans devant ce cadavre que je ne vous dirai pas que c'est moi qui ai fait de coups. Je vous répète que je suis innocent. Que cela soit entendu une fois pour toutes. » Quelques instants plus tard, il faisait le récit suivant au juge dans une pièce du château où on l'avait transféré. « Avant-hier, je suis venu au vieil Castounou. J'y ai trouvé monsieur de Lavardan et mademoiselle Odette. Mademoiselle Odette voulait se retirer. Je l'ai priée de rester, parce que j'apportais quelque chose pour elle. Et je lui demandais de bien vouloir accepter un souvenir de mes voyages. C'était un bijou assez rare, un collier qui supportait un motif oriental, que monsieur de Lavardan et sa fille admirèrent. Mais je n'étais pas venu pour cette bagatelle. Il y a 4 ans, dis-je à monsieur de Lavardan, lorsque je vous ai demandé la main de mademoiselle Odette, vous m'avez dit qu'elle était trop jeune et que j'étais trop pauvre. Mais, après l'avoir consulté, vous avez fini par me répondre que si dans 4 ans je devenais riche et que mademoiselle Odette voulut toujours de moi, elle serait ma femme. Les 4 ans sont passés, je suis revenu riche, je suis prêt à faire la preuve de cette fortune, et j'aime mademoiselle Odette plus que jamais. » En m'entendant parler avec cette franchise, mademoiselle de Lavardan n'attendit même point un signe de son père pour se lever et s'éclipser. Mais elle avait entendu ce que je voulais qu'elle entendît. C'était le principal. Et je restais donc seule avec le père qui prenait des faux fuyants. « Votre brusque mise en demeure nous surprend. Vous comprenez qu'il faille le temps de la réflexion. » Et autre balançoire. Ce n'était pas la première que l'on me servait depuis mon retour. Je n'étais pas content non plus de la façon dont mademoiselle de Lavardan nous avait quittés, vu ce qui avait été entendu autrefois entre nous. Moi, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes paroles. Je vous avouerai que ma patience était à bout. Je dis au vieux, carrément, « Je me suis expatrié, j'ai fait fortune, je réclame mon dû. »
Là-dessus, le père s'est levé, la figure mauvaise, et m'a déclaré « Rien ne vous a été promis. Je dois vous apprendre que ma fille est fiancée à monsieur de Santierne. »
J'ai reçu le coup dans l'estomac. C'était dur, bien que je m'y attendais depuis quelque temps. J'ai salué et j'ai fichu le camp.
Je ne vous dirai pas les heures que j'ai passées depuis. Qu'il vous suffise de savoir que je n'étais pas décidée à rester là-dessus. C'est alors que j'ai envoyé la lettre que vous savez à mademoiselle Odette. J'étais fou de penser qu'elle viendrait à mon rendez-vous. Je l'ai attendue quelque temps, et puis je suis rentrée chez moi. Tout à coup, j'entends du bruit dans le jardin. La porte est secouée, je l'ouvre, et je me trouve en face d'une vraie bête sauvage.
« Monsieur de Lavardan, continua Hubert, avait ma lettre à la main. Il me la jeta à la figure et me dit, littéralement écumant,
« Vous avez osé écrire cela à ma fille? Pour qui prenez-vous Odette ?»
Et il accompagna cette question des plus ignobles injures. Le voyant dans cet état, je fis tout mon possible pour conserver mon sang-froid, et je lui répondis aussitôt, « J'ai eu tort, en effet, de lui demander un rendez-vous. Mais il faut pardonner à un garçon que vous avez exaspéré, qui adore votre fille et à qui vous avez manqué de parole. » Il me répliqua que j'aurais dû comprendre dès le premier jour qu'il ne me donnerait jamais Odette, que j'en étais indigne, que je n'étais qu'un palefrenier, etc. Bref, il alla si loin dans ce genre de compliments que je ne pus me contenir plus longtemps, et que je portais la main sur lui pour le pousser hors de chez moi. Il était venu avec un fouet à chien dont il voulut me frapper. Aussitôt, nous fûmes aux prises de la façon la plus sauvage. C'est dans ce moment qu'il a dû m'arracher ma cravate. Enfin, j'en eus raison, et le rejetai dans le jardin avec d'autant plus de violence qu'il s'était accroché à moi avec plus de fureur. Puis je refermai ma porte. Je l'entendis qui s'éloignait en continuant ses injures. Quant à moi, j'étais accablé, anéanti, moins par la brutalité de cette scène que par la certitude que j'avais d'avoir perdu Odette pour toujours, et je restai un long temps sans faire un mouvement. Quand je sortis de cette sorte de léthargie, qui dura peut-être des heures, je me précipitai hors de chez moi comme un fou et me mis à courir dans la campagne. Combien de chemin ai-je fait? Où suis-je allé? Par où suis-je passé? Il me serait impossible de vous le dire. Ce n'est qu'à l'aurore que je commençais à recouvrer ma raison, à me rendre compte de l'état lamentable dans lequel je me trouvais, si bien que je me cachais de tous ceux que je rencontrais pour n'avoir pas d'explication à leur fournir. Et c'est ainsi que j'essayais de rentrer chez moi sans être vu pour me changer et réfléchir aux résolutions que j'avais à prendre. Mais alors vous m'avez arrêté, et ainsi j'ai appris qu'on avait assassiné monsieur de Lavardan et enlevé Odette. » Ayant fait cette confession, il se tut, et ce jour-là, le juge ne put en tirer un mot de plus. En vain voulut-on le mettre en contradiction avec lui-même, lui faire entendre que, malgré l'habileté de son récit, les faits le démentaient de la façon la plus éclatante. Par exemple, si, après cette orageuse explication, monsieur de Lavardan était rentré simplement au vieux Château-Neuf, il n'aurait point manqué de fermer la porte du parc derrière lui. Or, la clé était encore sur la serrure, d'où cette conclusion que monsieur de Lavardan avait été frappé chez Hubert et s'était traîné hâtivement chez lui pour y chercher du secours. En chemin, il succombait à sa blessure, pendant qu'Hubert emportait mademoiselle de Lavardan, sans doute évanouie, en tout cas réduite à l'impuissance, et peut-être frappée elle aussi, ajouta le juge. Car enfin, puisque vous ne voulez pas nous dire où elle se trouve, nous sommes bien forcés d'imaginer le pire. Avez-vous emporté mademoiselle de Lavardan, morte ou vivante ? À cette dernière question que lui posa obstinément le juge, Hubert ne répondit qu'en haussant les épaules et en lui jetant un regard diabolique. Le soir même,
Il fut conduit à la prison par des chemins détournés, car on voulait éviter le populaire, qui était fort en émoi et très excité contre lui. Hubert avait laissé en Camargue beaucoup d'ennemis, qui, depuis son retour, avaient fait courir sur lui et sur l'origine de sa nouvelle fortune les bruits les plus malveillants. La vérité était que l'on ignorait tout de ce garçon depuis 4 ans. Lui-même parlait vaguement d'un commerce de cabotage en Extrême-Orient et détournait la conversation dès qu'on essayait de le mettre sur ce sujet. Il se bornait à dire que les premiers temps avaient été très durs et qu'il avait beaucoup souffert. Quand il se vit enfermé dans un cachot et que c'était là l'aboutissement de tant d'efforts, il secoua sauvagement les épaules comme s'il eût voulu se débarrasser du poids de son infortune. Et, dans sa gorge rauque, il eut un grondement de bête traquée. Il ne toucha point à la nourriture qu'on lui apporta, mais d'un trait il vida une cruche d'eau. Et puis il s'assit sur son escabeau, les coudes aux genoux, la tête dans les mains. Soudain, son attention fut éveillée par un bruit continu qui venait de dehors, une sourde rumeur glissant au pied des murs qui le retenait prisonnier. Certains mots même, d'une consonance étrangère, frappèrent son oreille. Il se souleva, dressa la tête. Au-dessus de lui, tout là-haut, le carreau blafard d'une étroite fenêtre lui envoyait un reflet de la nuit blême. Il mit l'escabeau sur sa couchette et se hissa ainsi jusqu'à cette ouverture que barrait une croix de fer. Le carreau n'était que poussé. Il l'ouvrit. Alors les voix du dehors se firent plus distinctes. Parmi le claquement de fouet et le remuement des sandales, des bouts de phrases arrivaient jusqu'à lui, qui n'était certes point du provençal, mais du pur romanais de Valachie. Ainsi la voix d'un enfant geignait, haut, à plusieurs reprises, « Mex naxim te galitia !»« Je n'ai pas mangé !» Et sa raïa, sa mère, l'envoyait au béka, c'est-à-dire au diable. Puis passèrent des chants, une douce invocation à Débla, au soleil, et puis des injures parmi lesquelles revenait une voix irritée. « Uchela ! Uchela ! Chienne ! Chienne !» Et tous ces mots, Hubert les comprenait. En même temps, son regard allait se poser au loin sur la route, blanche de lune, tachetée des ombres de la caravane qui remontait vers le nord avec son peuple dépenaillé, ses roulottes grinçantes, ses chevaux étiques et jamais fatigués, qui ont usé leurs sabots à tous les chemins du vaste monde. Plus proche, de sombres silhouettes se tournaient une dernière fois vers les Saintes-Maries où elles étaient venues, poussées par un rêve peut-être réalisé. Si proches étaient-elles qu'on voyait briller leurs regards noirs dans leurs yeux de jade. Et il semblait à Hubert que tous ces visages ne lui étaient pas inconnus. Un nom répété avec allégresse le rejeta dans le gouffre noir de sa prison. « Sévère Turne !» Alors, sur le mur opaque qu'il avait dressé, de toute sa volonté obstinée entre le passé et l'avenir, des traits coururent, des traits de soufre qui commencèrent de dessiner des images de malheur, de ruines et de dévastation, où se traînait une damnée ombre qui ressemblait à Hubert comme un frère. Dans le fond, les tours croulantes d'une cité maudite, ravagée par des catastrophes séculaires, invasion, peste, choléra. Severturn, Severturn. Après la ruine de Babylone, le peuple gypsy, c'était son nom égyptien, le plus vieux du monde, accouru de la préhistorique Atlantide et retournant vers l'Occident d'où il était venu, avait trouvé un refuge à Severturn. Mais depuis le premier désastre qui avait passé sur la ville au temps de l'Égire, et d'où les gypsies s'étaient enfuis épouvantés, ceux-ci n'avaient plus trouvé un toit pour les abriter sur la terre, et les autres pays appelaient ce peuple le peuple bohémien, comme par dérision, car il n'avait jamais habité la Bohême.
Si les Bohémiens, chassés de frontière en frontière, ne savaient, vivants, où reposer leur tête, on pouvait se demander également où reposer leur mort, car jamais on ne vit tombe de Bohémiens, si bien que la légende raconte qu'ils détournent le lit des ruisseaux pour y enfouir les corps qu'ils veulent sauver de la profanation des roumis. Au cours des siècles, les ancêtres avaient prétendu que tant de malheurs étaient le châtiment de leur lâcheté. Ils n'auraient pas dû abandonner la ville sacrée. Là seulement, là encore, était le salut. Certaines familles, du reste, étaient restées à l'ombre du temple, dans ce pays si désolé et si malsain qu'on ne songeait point à le leur disputer. D'autres, sur la foi des prédictions, y revinrent, et c'est ainsi que l'on vit se reconstituer au commencement du siècle ce patriarcat de Transbalkanie, qui, ne se trouvant sur aucune grande route du monde et enfermé dans les montagnes abruptes, a conservé jusqu'à notre époque des lois et des coutumes dont l'antiquité est au moins comparable à celle de la mystérieuse Albanie, première patrie des Pelages. Que faisait cette damnée ombre du Ber se traînant dans ce pays ravagé, une fois de plus par la peste ? Si lamentable lui-même, cachant un corps dévoré de fièvre sous un habit bohémien, pour échapper à un peuple qui, dans son malheur, accuse l'étranger. Voyons-le comme il se voit à 2 ans de distance, trouvant encore la force de se hisser sur un cheval volé et fuyant ce pays de la mort. Mais tout à coup, un bras se dresse sur le chemin, un bras qui l'appelle. Un vieillard, richement vêtu comme le sont les prêtres qui officient dans les temples orthodoxes ou byzantins, est là, qui agonise, frappé par le fléau. Il lui tend dans sa gaine de cuir un objet qu'il tenait serré sur sa poitrine. Il rassemble son dernier souffle pour lui dire « Tu es de la race, descends et prends. C'est le livre des ancêtres. » Conformément à un usage ancien, un vieillard désigné apportait le livre chez les tribus voisines pour lutter contre la contagion par les plus ferventes prières. Et le vieillard, avant d'expirer, expliquait à Hubert « Le mal m'a frappé. Il s'agit de porter le livre à 4 verstes d'ici, au chef du village voisin. » Hubert prit ce qu'on lui tendait. Quand il avait sorti le livre de sa gaine, il s'était vu en possession d'un véritable trésor. Tout ce que l'art des moines du mont Athos avait pu ajouter à un missel ou à une icône, toute la science et toute la richesse byzantine, transmise au joaillier de Severtorn, s'étaient rencontrées pour faire de ce livre une pure merveille. Les bijoux qui l'ornaient étaient des plus précieux. Désormais, Hubert était riche, ou plutôt, il avait de quoi le devenir. Il s'empressa de quitter avec son trésor un pays qui était comme une plaie sur le monde. Comment y était-il venu? Il avait entendu dire autrefois à son père que les Lavardans n'avaient pas toujours été aussi riches, que le vieux Lavardan avait fait maint voyage dans sa jeunesse avant de rencontrer la fortune, et que le bruit courait qu'il avait établi la base de celle-ci sur l'acquisition de certains terrains pétrolifères limitrophes du patriarcat de Transbalkanie. Un jour même, le père d'Hubert avait questionné le père d'Odette, et celui-ci avait vaguement répondu qu'il n'avait fait que traverser le pays, que celui-ci était en effet des plus riches en pétrole, mais que l'isolement de cette contrée, les difficultés de transport et l'hostilité des habitants en rendaient l'exploitation quasi impossible. Hubert, qui, à peu près à bout de ressources, venait de traverser la Hongrie et à qui rien n'avait réussi, avait fait un détour pour s'assurer de ce qu'il y avait de fondé sur tous ces bruits qui représentaient cette sauvage contrée comme suintant le naft à ras du sol. Mais,
Pour pénétrer dans la zone défendue, il lui avait fallu vivre des mois et des mois dans le pays, se conformer aux coutumes des antiques tsigans de la montagne, apprendre leur langage. Finalement, il avait dû renoncer à son entreprise à cause de la peste et quitter, comme nous l'avons vu, cette terre maudite. Mais il en avait rapporté le livre des ancêtres. Dans quel état était-il maintenant, ce livre, odieusement dépouillé de son ancienne splendeur? Dans les ténèbres de sa prison, Hubert le voyait rayonner, tel qu'il l'avait reçu jadis, comme un livre de feu. Les améthystes, les topazes, les bérylles, les chrysobérylles, les émeraudes, les rubis, dont il était semé comme autant de gouttes de sang, flamboyaient à lui brûler la peau. Mais ce qui l'aveuglait le plus dans cette fantasmagorie évocatrice, ce n'était point cette magnificence dont le texte sacré était revêtu, mais bien les premières lignes qu'il avait trouvées sous la couverture. Quiconque respectera ce livre, le sauvera s'il est en danger, le rapportera s'il est égaré, sera l'objet d'une désirable récompense. Quiconque le volera ou le détruira sera châtié et puni de mort. Superstitieux, comme tout bon gardien qui se respecte, Hubert n'était jamais parvenu à oublier ce texte. Quelquefois, au moment où il s'y attendait le moins, ces lignes lui revenaient du fond de sa mémoire trop fidèle. Tantôt, une force surnaturelle semblait les projeter hors de lui-même pour qu'il les vît avec plus d'éclat, et elle se mettait à danser, comme ce soir, devant ses yeux éblouis, et sa face épouvantée. Car ce soir, il avait entendu le nom de la cité maudite. Il avait revu ceux de Severthorn, leurs faces noires, leurs yeux de jade, leurs gestes de malédiction. Et ce soir, est-ce que la prophétie n'était pas en train de s'accomplir? Est-ce qu'il n'était pas sur le chemin du châtiment, au bout duquel il y avait la mort? En vérité, ces gens avaient fait un pacte avec le diable, avec leur débla. Tout ce qui lui était arrivé depuis n'était rien de moins que naturel. Pas naturel du tout, en vérité. D'abord, on lui avait changé son Odette, il ne l'avait plus reconnue. Elle était une chose à lui quand il était parti, sa chose. Par quel maléfice ne l'avait-elle plus regardée à son retour? Et tout ce qui s'était passé depuis, tout s'était tourné étrangement contre lui. Et cette nuit de damnation, où au lieu d'Odette, il avait vu apparaître le père retrouvé le lendemain assassiné. Par qui? Par lui peut-être. Il n'en savait rien. Il niait de toutes les forces de son être. Il niait de tout son désir de n'avoir point tué. Mais nullement de toute sa conviction. Il n'en savait rien. Lui, si malin, si rusé, et qui en avait mis plus d'un dans le pétrin, à force de ruses soumises et tranquilles, il avait été soudain comme possédé. Il avait vu rouge, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien vu du tout. Comment avait-il oublié que c'était la dernière chose à faire que de lever la main sur le père d'Odette? En dépit de tout. Et il avait vu rouge, et il avait frappé, et il avait peut-être tué. Quand l'autre avait pris son fouet, peut-être, lui avait-il pris sur son bureau un certain poignard qui devait servir en principe à couper les pages de ses livres. Mais Hubert ne lisait jamais. Ce poignard était tout au plus un ornement ridicule, mais assurément, il pouvait donner la mort dans son poing. Qu'avait-il fait avec ce poignard? Il n'en savait rien. Sa mémoire était comme séparée de tout. À partir d'un certain moment, il glissait dans un grand trou noir, et quand il en sortait, c'était pour se retrouver errant comme un fou dans la campagne au jour naissant.
Qu'était devenu le petit objet de bazar, cet insignifiant poignard coupe-papier? Qu'en avait-il fait? Néant. Néant et maléfice. Mai Shuriko.
Mais prête l'oreille.
Ah, Venjansu.
Ah, vengeance.
Oro Anjansu. Oro Anjansu.
Horrible race, horrible race.
Ainsi, dans son prodigieux désarroi, Hubert mêlait-il à ces catastrophes présentes le mauvais sort dont disposait le peuple de la route pour se venger d'un roumi qui avait porté une main criminelle sur le livre des ancêtres. Dans sa rusticité, tantôt audacieuse et tantôt craintive, il avait toujours nourri cette pensée qu'après avoir été le point de départ de sa fortune, ce livre fatal se retournerait contre lui et apporterait les plus grands maux. Ceux dont il souffrait à cette heure étaient de taille. Devant les autres, il avait pu tenir le coup, comme un monsieur qui méprise une indigne accusation. Mais devant lui-même et devant le livre des ancêtres, il n'était plus qu'une bête traquée par le farouche destin. Être accusé d'un crime et ne pas savoir si on l'a commis, voilà un tourment de l'enfer.
Quant à Odette,
eh bien, cette idée qu'on ne la retrouverait pas faisait soudain bondir son cœur sous un rire sauvage.